à Washington.
Raïssa Girondin en direct de Washington pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. En République centrafricaine, de violents combats ont repris au quartier PK5 de Bangui. Les Nations Unies dénoncent dans un rapport des horreurs dans les prisons libyennes, des conditions de détention déplorables, mais aussi des cas de torture et de meurtre. Guerre commerciale Chine-États-Unis, l'Empire du Milieu porte plainte devant l'Organisation Mondiale du Commerce. Le président américain Donald Trump en colère après la perquisition du FBI dans les bureaux de son avocat personnel. Dans nos dossiers du jour, on parlera du tête-à-tête annoncé entre le président ivoirien Ouattara et Bédié. Dans la Minute Éco, Apple dit fonctionner à 100% aux énergies renouvelables et un avant-goût du prochain quart de finale, retour de la Ligue des Champions dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. En République centrafricaine, de violents combats ont repris au quartier PK5 de Bangui. Dimanche dernier, un groupe d'autodéfense avait lancé des attaques contre les casques bleus de la MINUSCA. Les échanges de tirs ont duré plusieurs heures. Idriss Fall a joint Lazar Djader, président du collectif 236 km 5 pour la paix.
Malgré l'essoufflement des balles. Oui, c'est des balles qui sifflent en ce moment.
Les affrontements opposent qui et qui?
Il y a la MINUSCA d'un côté et puis il y a ceux qui défendent le quartier de l'autre.
Et c'est le groupe de force?
Non, c'est confondu.
Et les combats durent depuis combien de temps?
Bon, ça fait depuis plus de deux heures, hein, ça fait depuis deux heures de temps.
Pour le moment, au Kobila, les gens sont enfermés chez eux?
Ben, je suis tiré à la maison, hein, juste à la maison, voilà. Bon, les gens sont enfermés chez eux, mais il y a des morts, hein, il y a des morts déjà, parce que tous les quartiers qui longent l'aéroport, eh ben, il y a la population qui a fui pour venir à l'intérieur du PK5.
Et qu'est-ce qui a causé ces affrontements? On dit que les groupes d'autodéfense du PK5 avaient mené des attaques.
Ben non, mais c'est la suite de ce qui s'est passé dimanche.
L'ONU s'était juré de désarmer le groupe de celui qui se fait appeler Force.
Oui, c'est ça, oui.
Concernant les prochaines élections congolaises, la commission électorale coréenne a publiquement déclaré qu'elle n'apportait aucun soutien officiel à son homologue congolais qui veut utiliser des machines à voter de fabrication coréenne pour l'élection du 23 décembre. Elle fait savoir qu'elle soutient l'ambassadrice des Nations Unies à l'ONU, Nikki Haley, et l'ambassade de Corée du Sud à Kinshasa, qui se sont opposés à ces machines. Au total, plus de 40 millions d'électeurs sont inscrits pour désigner le successeur du président Joseph Kabila. Et toujours en République démocratique du Congo à l'Est, un chef milicien, ses deux gardes du corps et une femme ont été tués dans un assaut de l'armée au sud Kivu. Le chef rebelle Karakara et deux de ses gardes du corps ont été tués par l'armée près d'Uvira et de la frontière du Burundi, a déclaré le capitaine Dieudonné Kasereka, le porte-parole adjoint de l'armée dans cette région. Au Gabon, trois partisans présumés d'un opposant turc, Fethullah Gulen, arrêtés à Libreville et ramenés en Turquie. Le président turc poursuit sa purge contre les complices supposés de la tentative du coup d'État survenu en juillet 2016. Le porte-parole du gouvernement turc a annoncé la semaine dernière que depuis la tentative de coup d'État, les services secrets turcs ont impacté 80 partisans de Gulen dans 18 pays différents et les ont ramenés en Turquie. En Gambie, trois personnes soupçonnées du meurtre d'un membre d'un comité de protection de la forêt de la région sénégalaise de Casamance ont été arrêtées, selon le porte-parole de la police gambienne. Les trois hommes sont actuellement détenus au poste de police de Bansang, dans le centre de la Gambie, près de la zone où le corps de la victime a été retrouvé. Au Nigeria, 14 personnes ont été brûlées dans un incendie dans un camp de déplacés du nord-est du pays où sévit Boko Haram. Pendant trois jours, des foyers de feu se sont propagés dans un camp qui accueille quelques 55 000 personnes à l'est de Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires estime qu'ils ont été provoqués accidentellement par les braises utilisées par les familles pour cuisiner en plein air. Aucun décès n'a été enregistré. Au Kenya, au moins 17 personnes sont mortes et une quarantaine de blessés dans l'accident d'un autocar. Le conducteur du car a perdu le contrôle de son véhicule en voulant éviter une collision avec un autre véhicule sur le pont enjambant une rivière du comté de Narok dans le sud-ouest du pays. Le président soudanais Omar el-Béchir a ordonné la libération de tous les détenus politiques emprisonnés dans son pays. En janvier, des manifestations pour protester contre la hausse des prix avaient été réprimées par la police dans plusieurs villes du Soudan. Des centaines de dirigeants de l'opposition, des militants des droits de l'homme et des manifestants avaient été arrêtés. En Libye, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont détenus dans des conditions horribles par des groupes armés. Ces derniers leur font subir des tortures et autres mauvais traitements, selon un rapport de l'ONU. Les précisions de John Lyndon.
Des informations recueillies par le Bureau des droits de l'homme de l'ONU et la mission d'appui des Nations Unies en Libye ont révélé une généralisation de la détention prolongée et arbitraire et des violations systématiques des droits de l'homme en détention. À partir de 2014, des groupes armés ont arrêté des membres de factions rivales, mais aussi des journalistes, hommes politiques et même du personnel médical, indique le rapport. Ce rapport met à nu non seulement les abus et les violations que subissent les Libyens privés de leur liberté, mais aussi l'horreur de telles détentions, a déclaré le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Selon les chiffres datant d'octobre 2017, quelques 6500 personnes croupissaient dans les prisons en Libye. Le rapport publié ce mardi ne fait pas cas des détentions abusives des migrants en Libye, devenues une plaque tournante pour des centaines de milliers d'Africains souhaitant rejoindre l'Europe.
En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a effectué une rare apparition publique en fauteuil roulant pour inaugurer une mosquée et des extensions du métro d'Alger, selon des images diffusées par la télévision publique. Il a été élu pour un quatrième mandat en 2014, un an après un AVC. Son apparition intervient alors que le secrétaire général du Front de Libération Nationale lui a demandé de se présenter à un cinquième mandat à la tête de l'État lors de la présidentielle prévue en 2019. Et par ailleurs, l'Algérie soutient la reprise de négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario pour résoudre le conflit du Sahara occidental, mais refuse d'y prendre part. C'est ce qu'a réaffirmé le chef de la diplomatie algérienne.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chine a porté plainte contre les États-Unis devant l'Organisation mondiale du commerce pour contester la décision de l'administration Trump d'imposer des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium. Jacques Aristide.
Concrètement, Pékin a demandé l'ouverture de consultations avec le gouvernement américain concernant certaines mesures visant les produits en acier et en aluminium, d'après un document de l'OMC. En rétorsion aux taxes sur l'acier et l'aluminium, Pékin a déclenché le 2 avril dernier des mesures punitives contre 128 produits américains. Les consultations, qui se tiennent généralement à Genève et sont confidentielles, constituent la première étape du processus de règlement des conflits commerciaux prévu par l'OMC, un processus qui peut durer des années. En principe, l'accusé doit répondre à la demande dans les 10 jours. Dans un discours ce mardi, le président chinois n'a pas mentionné directement le spectre d'une guerre commerciale avec Washington. Xi Jinping s'est engagé à réduire considérablement cette année les tarifs douaniers chinois sur les importations d'automobiles et d'autres produits. Un ton conciliant, même après les menaces de son homologue américain Donald Trump d'imposer des droits de douane sur 150 milliards de dollars d'importations chinoises.
Et ici, aux États-Unis, le président Donald Trump a dénoncé une perquisition du FBI dans les bureaux de Michael Cohen, son avocat personnel, qui a payé une actrice de film pour adultes pour taire une liaison présumée avec M. Trump. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
C'est une honte, c'est une véritable honte, a tempêté le président Donald Trump. D'après Stephen Ryan, avocat de Michael Cohen, cette perquisition a été lancée en partie à la demande du procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine. M. Ryan a dénoncé une perquisition inappropriée et inutile qui, selon lui, a abouti à la saisie de communications confidentielles entre l'avocat et son client. Les documents saisis ont trait au dossier Stormy Daniels, l'actrice de films pornographiques d'après les médias américains. Elle dit avoir eu une liaison avec Donald Trump en 2006. Michael Cohen a admis avoir versé 130 000 dollars à l'actrice dans le cadre d'un accord de confidentialité quelques jours avant le scrutin présidentiel. Il a assuré que cette somme venait de ses propres fonds. M. Trump dit qu'il n'a jamais été au courant de ce versement. L'actrice a porté plainte pour faire invalider cet accord dit de confidentialité. Elle estime qu'il est nul puisque M. Trump ne l'a pas signé. L'enquête du procureur spécial tente d'établir l'existence d'une éventuelle collusion entre l'équipe de campagne de M. Trump et Moscou.
Voilà pour le journal. Restez à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. C'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Eric Manirakiza pour la Minute Éco. L'aide publique au développement des pays de l'OCDE au profit de l'Afrique a augmenté de 3% en 2017 et a atteint 29 milliards de dollars. L'Afrique subsaharienne a reçu plus de 86% de l'aide, soit 25 milliards de dollars. Cependant, la part des prêts a considérablement augmenté au détriment des dons. L'intérêt a été porté sur l'industrie et les infrastructures, sans les secteurs sociaux comme l'éducation et la santé. Le géant de l'électronique Apple affirme fonctionner à 100% aux énergies renouvelables. Ceci concerne ses magasins, bureaux, centres de données et ses installations co-gérées dans 43 pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine et en Inde. La firme réaffirme son engagement à combattre le changement climatique et à créer un environnement plus sain. Apple est la première entreprise mondiale par capitalisation boursière qui atteignait lundi 862 milliards de dollars. Les pertes économiques liées aux catastrophes naturelles et désastres causés par l'homme ont totalisé 337 milliards de dollars en 2017. Les assureurs ont pris en charge 144 milliards de dollars. Les trois ouragans, Harvey, Irma et Maria, qui se sont abattus sur la Caraïbe et le sud-est des États-Unis, ont à eux seuls occasionné 217 milliards de pertes et 92 milliards de frais pour les assureurs. C'est la deuxième année la plus coûteuse pour les assureurs depuis les ouragans Katrina, Rita et Wilma en 2005.
Et c'est la musique d'ambiance du sport. Bonsoir Nicolas Pinault.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Quart de finale retour de la Ligue des Champions.
Et oui, à Manchester, les Citizens qui accueillent Liverpool avec 3 buts de retard, alors que Mohamed Salah, un temps incertain, devrait tenir sa place. Coup d'envoi 18h45, temps universel en Angleterre. Tout comme à Rome, où Barcelone joue sans pression, quasiment qualifié après sa victoire 4-1 au match aller. Barcelone est au stade olympique pour valider face à l'AS Rome son billet pour les demi-finales.
Et à suivre ce mercredi, les deux derniers quarts de finale.
Et oui, contre le Real Madrid, le technicien italien Massimiliano Allegri devra composer sans son défenseur Andrea Barzagli, blessé. Federico Bernardeschi n'est pas là non plus, ainsi que Rodrigo Bentancur et Paolo Dybala, suspendus. La Juventus Turin qui fait face à un mur et devra remonter 3 buts de retard contre le Real Madrid de Zinedine Zidane. De leur côté, les joueurs du Bayern Munich, sacré champion d'Allemagne samedi, sont concentrés avant ce match retour de Ligue des Champions contre Séville. Ils l'avaient emporté 2-1 à l'aller en Andalousie.
Un point sur les Jeux du Commonwealth en Australie.
Et oui, l'athlète sud-africaine Caster Semenya a survolé ce mardi le 1500 mètres. Âgée de 27 ans, Semenya a déposé sans être inquiété ses adversaires dans le dernier tour pour l'emporter en 4 minutes et 71 centièmes devant la Kenyane Beatrice Chepkoech, et la Galloise Melissa Courtney. Semenya a amélioré le record d'Afrique du Sud et remporté ainsi sa première médaille aux Jeux du Commonwealth après ses titres mondiaux et olympiques sur 800 mètres féminin. Semenya sera la grande favorite d'ailleurs du 800 mètres à Gold Coast, dont les séries commencent ce jeudi.
Et enfin la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Il ne reste plus qu'une place à prendre dans les playoffs NBA 2018 après les qualifications d'Oklahoma City, de San Antonio et la Nouvelle-Orléans. Minnesota et Denver s'affronteront mercredi pour le dernier billet. Oklahoma City s'est imposé contre Miami 115-93. Autre qualifié de la soirée, San Antonio qui a dominé à domicile Sacramento 98-85. La Nouvelle-Orléans a assuré son billet en battant en Californie les Clippers 113-100. Dans les autres matchs de ce lundi soir, Kevin Love et LeBron James ont permis à Cleveland de s'imposer nettement à New York 123-109.
Merci Nicolas Pinot.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Ici même à Washington, le passage de Mark Zuckerberg est à la une. Le fondateur de Facebook est entendu par plusieurs commissions du Sénat et de la Chambre des représentants aujourd'hui et demain. Cela fait suite au scandale de Cambridge Analytica qui aurait accédé de manière illégale aux données de 87 millions d'utilisateurs. Mark Zuckerberg s'en est déjà excusé, mais cela pourrait ne pas suffire. Abdourahmane Dia.
Mark Zuckerberg admet qu'il s'est trompé et reconnaît son erreur.
Nous n'avons pas suffisamment eu une vue d'ensemble sur notre responsabilité. Et ça, c'était une grosse erreur. Oui, c'était mon erreur.
Et la directrice des opérations de Facebook, Sheryl Sandberg, est sur la même longueur d'onde que son patron.
Eh bien, nous avons commis de graves erreurs et nous en sommes conscients.
Mais Facebook refuse d'endosser seule la responsabilité. Écoutons Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, et Sheryl Sandberg, chef des opérations.
Si Facebook en sait beaucoup sur vous, c'est parce que vous avez accepté de partager ces informations.
Il s'agit des données que les gens ont déjà listées publiquement.
Et il est clair que Mark Zuckerberg, en acceptant de faire face aux parlementaires, se défendra et tentera de prouver en même temps que son organisation se bat pour prévenir des incidents pareils. Une audition destinée en quelque sorte à rassurer. Joseph Jérôme, analyste au Centre pour la démocratie et la technologie à Washington, D.C.
Aux États-Unis, une bonne partie de ce qu'on met sur Internet, y compris sur les plateformes comme Facebook et les autres applications, tout ça s'autorégule en quelque sorte. Ce genre d'audition, ce type d'application effective, ce n'est pas très clair.
Résultat, les entreprises de technologie ne payent pas un grand prix pour leur mauvais comportement. Joseph Jérôme, du Centre pour la démocratie et la technologie.
La Commission fédérale du commerce avait réussi à soutirer une amende à Google, mais c'était seulement 20 millions de dollars, ce qui représente, je crois, les revenus de la compagnie en une demi-journée. Donc, les amendes sautent un peu comme le prix à payer pour faire des affaires.
Et ces affaires impliquent toujours le partage des données avec les utilisateurs tiers. En dépit du manque de transparence, Sheryl Sandberg de Facebook continue de vanter les bienfaits de l'utilisation des réseaux sociaux.
Nous croyons en un monde où les gens peuvent partager et expérimenter des choses ensemble, mais nous n'avions juste pas assez pensé au côté négatif.
Ce qui est sûr, après 2 jours d'audition au Congrès, Mark Zuckerberg pourrait repartir de Washington avec une idée de ce qui pourrait attendre Facebook et les autres réseaux sociaux s'ils ne prennent pas plus au sérieux la protection des données personnelles des utilisateurs.
Bonjour, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous dire de ne pas manquer Le Monde au féminin à 19h05 temps universel ce mardi, juste après les nouvelles. L'invité de LMF est le champion international de taekwondo, Christian Kombenyondo, membre de la diaspora gabonaise aux USA. Danger, comme on l'appelle dans le milieu du sport et de la musique, nous parlera de ses initiatives et de sa vision pour la jeunesse africaine. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook le mardi. À très bientôt.
Le programme international Flintlock, lancé en 2005, a débuté hier au Niger. Cette opération dirigée par AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique, implique les pays membres du G5 Sahel, le Sénégal, le Cameroun et 12 partenaires occidentaux. Pour en parler, John Linden a joint à Stuttgart, en Allemagne, Mustapha Nkaouj, le porte-parole de l'AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique.
Flintlock a commencé hier, le 9 avril, et va durer jusqu'au 20 avril. Environ 1900 représentants de 20 pays africains et occidentaux participeront à l'édition de cette année. Les activités seront menées au Niger, au Burkina Faso, aussi bien qu'au Sénégal.
Qu'est-ce que vous faites concrètement pendant ces opérations?
D'abord, Flintlock est un exercice annuel qui concerne les militaires et les agences d'application de la loi. Il est dirigé par les Africains eux-mêmes. Et depuis 2005, l'exercice vise à renforcer les forces de pays partenaires clés d'Afrique du Nord et de l'Ouest, ainsi que les forces spéciales occidentales. Flintlock est le plus important exercice de forces spéciales qu'organise le commandement des États-Unis pour l'Afrique. L'exercice vise à renforcer les capacités des pays partenaires clés de la région à lutter contre les organisations extrémistes violentes, protéger leurs frontières et assurer la sécurité de leur population. En outre, c'est un exercice qui renforce les partenariats entre les forces d'opération spéciales et les forces de l'ordre des pays d'Afrique, des États-Unis et de l'Ouest. Il renforce aussi leur capacité à travailler ensemble, leur interopérabilité, pendant qu'ils participent aux opérations multinationales en cours ou en réponse aux crises.
Alors, vous avez parlé de 3 pays concernés, le Niger, le Sénégal et le Burkina Faso. Comment s'est opérée la sélection?
Nous menons des conférences de planification de l'exercice chaque année. Durant ces conférences, on demande aux pays partenaires pour savoir ceux qui sont intéressés à accueillir l'exercice et on fait la détermination basée sur les demandes.
Et quand est-ce que les prochaines opérations sont prévues? Et est-ce que vous savez où est-ce qu'elles auront lieu?
La planification de l'édition 2019 de Flintlock est en cours. Et le pays hôte n'a pas encore été déterminé. Une annonce officielle détaillée sera transmise éventuellement après la fin de l'édition Flintlock 2018.
L'Afrique fait face à de nombreux fléaux. Le djihadisme, vous en avez parlé. En quoi est-ce qu'une opération comme celle que vous menez peut aider à éliminer ce genre de fléau?
Comme vous savez, le terrorisme est une menace transfrontalière, donc il faut vraiment avoir une réponse régionale pour pouvoir résoudre le problème. L'exercice Flintlock vise à développer, à renforcer les capacités des pays partenaires africains et d'autres pour pouvoir faire face à cette menace transnationale.
Mustapha Nkaouj, porte-parole de l'AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique. En Côte d'Ivoire, un tête-à-tête attendu aujourd'hui entre les présidents Alassane Ouattara et Henri Conan-Bédié. L'agenda n'a pas été communiqué au public, mais les deux hommes se rencontrent au moment où leur alliance semble vaciller. Pour connaître l'enjeu, Eric Manirakiza a joint à Abidjan le leader de l'ONG locale Agir pour la démocratie, la justice et la liberté, Fernand Julien Gauze.
Cette alliance semble tenir toujours parce que c'est d'abord une alliance stratégique et c'est une alliance politique. Stratégique parce que elle tente à conforter non seulement la conservation du pouvoir, mais également à en partager le bénéfice. Elle est politique aussi parce qu'il s'agit de perpétuer la mémoire, donc de conserver les acquis de l'oufouettisme.
Au regard de la décomposition électorale, est-ce que le front uni est-il encore possible?
Vous avez vu, par exemple, au niveau des sénatoriales, il a suffi simplement que le PDCI soit d'accord pour que les sénatoriales se tiennent. Si le PDCI n'avait pas été d'accord, le RDS seul ne serait pas allé au front. Il y a encore peut-être d'autres batailles à gagner entre les deux alliés. Et malgré les apparences, le bruit qu'on entend de la part de certains soutiens, de certains hommes forts de part et d'autre, l'essentiel me paraît préservé et sauf. Hein.
Mais le PDCI attend son tour aux prochaines présidentielles.
La question est de savoir s'il est convaincu, lui, PDCI, que c'est vraiment son tour et qu'il s'en donne les moyens. Mais je pense que les deux leaders des deux partis savent où ils vont et quels sont les accords secrets.
Bédié a quelle marge de manœuvre actuellement pour embarquer sa famille politique?
Il a une marge de manœuvre officiellement étroite. parce que basé sur une exigence que les troupes, les lieutenants, les soutiens rendent incontournable. Je pense qu'il y a d'autres négociations qui se mènent dans une perspective à plus long terme qu'on ne croit. Et les deux alliés tiennent la, je vais dire la bonne corde et ils ne veulent pas lâcher prise.
Et brièvement, que pensent les Ivoiriens dans tout cela?
Les Ivoiriens sont aux antipodes de ces accords de couloir, de ces accords secrets, confidentiels. Ils se contentent de ce que les apparences leur servent, à savoir qu'il y a un apparent désaccord entre les deux leaders et que chacun campe sur une position qui va dans le sens de l'intérêt de son parti. Mais on a vu le même débat se faire pendant les consultations, au moment des consultations présidentielles de 2015. Il a suffi d'une déclaration du président du PDCI pour que les choses en aillent différemment. C'est ce qui, à mon sens, risque encore de se passer cette fois-ci. Et ils ne sont pas comptables de ce qu'affirment leurs différents lieutenants. La preuve, le président Bédia a nommé le vice-président d'un camp comme le vice-président du PDCI, coordonnateur de tous les vice-présidents. Et le secrétaire exécutif du PDCI a déclaré ces derniers jours que la négociation sur la question du parti unifié est entre les mains du vice-président d'un camp. Le porte-parole officiel du PDCI est le ministre Adjoumani, qui est très proche des vues et de la cause du président Ouattara.
C'était Fernand Julien Gauze en Côte d'Ivoire.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et on finit en Tunisie. Entre les murs couverts de fresques dans un conservatoire de la Médina, des dizaines de muezzines lancent successivement l'appel à la prière. Les yeux fermés, concentrés, ils apprennent à déclamer ces paroles simples de la manière la plus mélodieuse. Un professeur les accompagne pour rendre leur chant plus harmonieux et promouvoir la version tunisienne de l'appel à la prière, une version pacifique. Dili Diko nous en dit plus.
Deux fois par semaine, jusqu'à la mi-avril, les muezzins de Tunis se retrouvent à Rachidia, l'institut de musique traditionnelle plus habitué à former des choristes ou des joueurs d'oud. Écoutons Abdel Idriss, un muezzin en apprentissage à Rachidia.
Nous sommes là pour améliorer nos appels à la prière. Cette formation vocale est axée sur différents styles. Ainsi, lorsque nous ferons l'appel à la prière après cette formation, les personnes qui nous entendront seront ravies. Il y a des appels à la prière que nous préférions ne pas entendre.
Et justement, parce qu'il y a des appels à la prière qui font grincer les dents de certains fidèles dès 4 heures du matin, et qu'en Tunisie, la majorité des appels ne sont pas enregistrés mais chantés, il est très important de maîtriser les nuances vocales de l'appel à la prière. Fethik Zonda est musicien et professeur. Il nous explique toutes ces subtilités.
Ce sont les mêmes sons, mais la manière de les dire diffère. Le dialecte change. Il y a des sons plus longs, il y a des sons sur lesquels il faut mettre plus d'emphase en Tunisie. Des sons que l'on ne retrouve pas au Moyen-Orient, ils sont plus resserrés.
Les plus grands maîtres muezzins connaissent jusqu'à 10 manières différentes de scander les quelques mots qui rythment les 5 prières quotidiennes. Hélas, ce n'est pas le cas de tout le monde. Bon nombre de muezzins tunisiens recrutés par le ministère des Affaires religieuses montent dans le minaret après une formation parfois sommaire. En promouvant l'appel à la prière à la tunisienne, le ministère défend également l'islam tunisien. Parfois accusé par des mouvements extrémistes ou des pays plus rigoristes d'être dévoyé. On écoute Ahmed Adoum, ministre tunisien des Affaires religieuses.
L'islam n'a jamais été l'islam du terrorisme dont on parle. Ceci est une occasion de montrer la vérité de l'islam dans le monde musulman, en particulier en Tunisie.
Le message est celui d'un appel pacifique et joyeux.
Salut les amis, ici Roger Noutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débat. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. carte CPF à plan au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Sims Lumami à la mise en onde, Michel Dubinski à la console, Raïssa Girondin à la présentation. On reste connecté sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com pour plus d'actualités. Restez à l'écoute, excellente suite de programme. Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayigouya Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique.